Ève alla voir sa mère. Par un hasard favorable, Madame Chardon gardait la femme du premier substitut, laquelle venait de donner un héritier présomptif à l'illustre famille des Milhaud de Nevers. Ève, en défiance de tous les officiers ministériels, avait inventé de consulter, sur sa position, le défenseur légal des veuves et des orphelins, de lui demander si elle pouvait libérer David en s'obligeant, en vendant ses droits. Mais elle espérait aussi savoir la vérité sur la conduite ambiguë de Petit Claud. Le magistrat, surpris de la beauté de Madame Séchard, la reçut, non seulement avec les égards dus à une femme, mais encore avec une espèce de courtoisie à laquelle Ève n'était pas habituée. Elle vit enfin, dans les yeux du magistrat, cette expression que depuis son mariage elle n'avait plus trouvée que chez Kolb, et qui, pour les femmes belles comme Ève, et le critérium avec lequel elle juge les hommes. Quand une passion, quand l'intérêt ou l'âge glace dans les yeux d'un homme le pétillement de l'obéissance absolue qui flambe au jeune âge, une femme entre alors en défiance de cet homme et se met à l'observer. Les Cointet, Petit Claud, Cérizet, tous les gens en qui elle avait deviné des ennemis, l'avaient regardée d'un œil sec et froid. Elle se sentit donc à l'aise avec le substitut, qui, tout en l'accueillant avec grâce, détruisit en peu de mots toutes ses espérances. « Il n'est pas certain, madame, lui dit-il, que la cour royale réforme le jugement qui restreint au meuble meublant l'abandon que vous a fait votre mari de tout ce qu'il possédait pour vous remplir de vos reprises. Votre privilège ne doit pas servir à couvrir une fraude. Mais comme vous serez admise en qualité de créancière au partage du prix des objets saisis, que votre beau-père doit exercer également son privilège pour la somme des loyers dus, il y aura, l'arrêt de la cour une fois rendu, matière à d'autres contestations, à propos que de ce que nous appelons, en termes de droit, une contribution. « Mais monsieur Petit Claud ne ruine donc ? » s'écria-t-elle. « La conduite de Petit Claud, reprit le magistrat, est conforme au mandat donné par votre mari qui veut, dit son avoué, gagner du temps. Selon moi, peut-être vaudrait-il mieux se désister de l'appel et vous rendre acquéreur à la vente, vous et votre beau-père, des ustensiles les plus nécessaires à votre exploitation. Vous, dans la limite de ce qui doit vous revenir, lui, pour la somme de ses loyers. Mais ce serait aller trop promptement au but. Les avoués vous grugent. Je serai alors dans les mains de monsieur Séchard père, à qui je devrai le loyer des ustensiles et celui de la maison. Mon mari n'en resterait pas moins sous le coup des poursuites de monsieur Métivier, qui n'aurait presque rien eu. Oui, madame. Eh bien, notre position serait pire que celle où nous sommes. La force de la loi, madame, appartient en définitive aux créanciers. Vous avez reçu 3 000 francs, il faut nécessairement les rendre. Oh, monsieur, nous croyez-vous capable de... Ève s'arrêta en s'apercevant du danger que sa justification pouvait faire courir à son frère. Oh, je sais bien, reprit le magistrat, que cette affaire est obscure et du côté des débiteurs, qui sont probes, délicats, grands même. Et du côté du créancier, qui n'est qu'un prête-nom. Ève, épouvantée, regardait le magistrat d'un air hébété. « Vous comprenez, dit-il en lui jetant un regard plein de grosse finesse, que nous avons, pour réfléchir à ce qui se passe sous nos yeux, tout le temps pendant lequel nous sommes assis à écouter les plaidoiries de messieurs les avocats. » Ève revint au désespoir de son inutilité. Le soir, à 7 heures, Doublon apporta le commandement par lequel il dénonçait la contrainte par corps. À 7 heures, la poursuite arriva donc à son apogée. « À compter de demain, dit David, je ne pourrai plus sortir que pendant la nuit. » Ève et Madame Chardon fondirent en larmes. Pour elles, se cacher était un déshonneur. En apprenant que la liberté de leur maître était menacée, Kolb et Marion s'alarmèrent d'autant plus que, depuis longtemps, ils l'avaient jugé dénué de toute malice. Et ils tremblèrent tellement pour lui qu'ils vinrent retrouver Madame Chardon, Ève et David, sous prétexte de savoir à quoi leur dévouement pouvait être utile. Ils arrivèrent au moment où ces 3 êtres, pour qui la vie avait été jusqu'alors si simple, pleuraient en apercevant la nécessité de cacher David. Mais comment échapper aux espions invisibles qui, dès à présent, devaient observer les moindres démarches de cet homme, malheureusement si distrait? Si madame veut attendre un petit gardir qui est fait pousser à une reconnaissance dans le grand ennemi, dit Kolb, et vi ferait que quel génie connaît, quoique chez l'air d'un allemand, comme je suis un vrai français, j'ai encore telle malice. Oh, madame, dit Marion, laissez-le aller. Il ne pense qu'à garder monsieur. Il n'a pas d'autre idée. Kolb n'est pas un Alsacien. C'est... quoi ? Un vrai Ternovien. Allez, mon bon Kolb, lui dit David. Nous avons encore le temps de prendre un parti. Kolb courut chez l'huissier, où les ennemis de David, réunis en conseil, avisaient aux moyens de s'emparer de lui. L'arrestation des débiteurs est, en province, un fait exorbitant, anormal s'il en fut jamais. D'abord, chacun s'y connaît trop bien pour que personne n'emploie jamais un moyen si odieux. On doit se trouver, créancier et débiteur, face à face pendant toute la vie. Puis, quand un commerçant, un banqueroutier, pour se servir des expressions de la province, qui ne transige guère sur cette espèce de vol légal, médite une vaste faillite, Paris lui sert de refuge. Paris est en quelque sorte la Belgique de la province. On y trouve des retraites presque impénétrables, et le mandat de l'huissier poursuivant expire aux limites de sa juridiction. Il est d'autres empêchements quasi d'irrément. Ainsi, la loi qui consacre l'inviolabilité du domicile règne sans exception en province. L'huissier n'y a pas le droit, comme à Paris, de pénétrer dans une maison tierce pour y venir saisir le débiteur. Le législateur a cru devoir accepter Paris à cause de la réunion constante de plusieurs familles dans la même maison. Mais en province, pour violer le domicile du débiteur lui-même, l'huissier doit se faire assister du juge de paix. Or, le juge de paix, qui tient sous sa puissance les huissiers, est à peu près le maître d'accorder ou de refuser son concours. À la louange des juges de paix, on doit dire que cette obligation leur pèse. Ils ne veulent pas servir des passions aveugles ou des vengeances. Il est encore d'autres difficultés non moins graves et qui tentent à modifier la cruauté tout à fait inutile de la loi sur la contrainte par corps, par l'action des mœurs qui changent souvent les lois au point de les annuler. Dans les grandes villes, il existe assez de misérables, de gens dépravés, sans foi ni loi pour servir d'espions. Mais dans les petites villes, chacun se connaît trop pour pouvoir se mettre au gage d'un huissier. Quiconque, dans la classe infime, se prêterait à ce genre de dégradation serait obligé de quitter la ville. Ainsi, l'arrestation d'un débiteur n'étant pas, comme à Paris ou comme dans les grands centres de population, l'objet de l'industrie privilégiée des gardes du commerce, devient une œuvre de procédure excessivement difficile, un combat de ruse entre le débiteur et l'huissier, dont les inventions ont quelquefois fourni de très agréables récits aux faits parés des journaux. Cointet, l'aîné, n'avait pas voulu se montrer, mais le gros Cointet, qui se disait chargé de cette affaire par Métivier, était venu chez Doublon avec Cérizet, devenu son prote, et dont la coopération avait été acquise par la promesse d'un billet de 1 000 francs. Doublon devait compter sur 2 de ses praticiens. Ainsi, les Cointet avaient déjà 3 limiers pour surveiller leur proie. Au moment de l'arrestation, Doublon pouvait d'ailleurs employer la gendarmerie, qui, au terme des jugements, doit son concours à l'huissier qui le requiert. Ces 5 personnes étaient donc en ce moment même réunies dans le cabinet de Maître Doublon, situé au rez-de-chaussée de la maison, en suite de l'étude. On entrait à l'étude par un assez large corridor dallé qui formait comme une allée. La maison avait une simple porte bâtarde, de chaque côté de laquelle se voyaient les panonceaux ministériels dorés, au centre desquels on lit en lettres noires « Huissier ». Les 2 fenêtres de l'étude, donnant sur la rue, étaient défendues par de forts barreaux de fer. Le cabinet avait vue sur un jardin où l'huissier, amant de Pomone, cultivait lui-même avec un grand succès les espaliers. La cuisine faisait face à l'étude, et derrière la cuisine se développait l'escalier par lequel on montait à l'étage supérieur. Cette maison se trouvait dans une petite rue, derrière le nouveau palais de justice alors en construction, et qui ne fut fini qu'après 1830. Ces détails ne sont pas inutiles à l'intelligence de ce qui advint à Kolb. L'Alsacien avait inventé de se présenter à l'huissier sous prétexte de lui vendre son maître, afin d'apprendre ainsi quels seraient les pièges qu'on lui tendrait, et de l'en préserver. La cuisinière vint ouvrir. Kolb lui manifesta le désir de parler à Monsieur Doublon, pour affaire. Contrariée d'être dérangée pendant qu'elle lavait sa vaisselle, cette femme ouvrit la porte de l'étude en disant à Kolb, qui lui était inconnu, d'y attendre monsieur pour le moment en conférence dans son cabinet. Puis, elle alla prévenir son maître qu'un homme voulait lui parler. Cette expression « un homme » signifiait si bien un paysan que Doublon dit « qu'il attende ». Kolb s'assit auprès de la porte du cabinet. « Ah ça, comment comptez-vous procéder ? car si nous pouvions l'empoigner demain matin, ce serait du temps de gagner, disait le gros Cointet. Il n'a pas volé son nom de naïf, rien ne sera plus facile, s'écria Cérizet. En reconnaissant la voix du gros Cointet, mais surtout en entendant ces deux phrases, Kolb devina sur le champ qu'il s'agissait de son maître, et son étonnement alla croissant quand il distingua la voix de Cérizet. « Un garçon qui a mangé son bain !» s'écria-t-il, frappé d'épouvante. « Mes enfants, dit Doublon, voici ce qu'il faut faire. Nous échelonnerons notre monde à de grandes distances, depuis la rue de Beaulieu et la place du Mûrier, dans tous les sens, de manière à suivre le naïf, ce surnom me plaît, sans qu'il puisse s'en apercevoir. Nous ne l'équiterons pas qu'il ne soit entré dans la maison où il se croira caché. Nous lui laisserons quelques jours de sécurité, puis nous les rencontrerons quelques jours avant le lever ou le coucher du soleil. « Mais en ce moment, que fait-il? Il peut nous échapper, » dit le gros Cointet. « Il est chez lui, » dit Maître Doublon. « S'il sortait, je le saurais. J'ai un de mes praticiens sur la place du Mûrier en observation, un autre au coin du palais et un autre à 30 pas de ma maison. Si notre homme sortait, il sifflerait. Et il n'aurait pas fait 3 pas que je le saurais déjà par cette communication télégraphique. » Les huissiers donnent à leur record le nom honnête de praticien. Kolb n'avait pas compté sur un si favorable hasard. Il sortit doucement de l'étude et dit à la servante « Monsieur Doublon est occupé pour longtemps, je reviendrai demain matin de bonne heure. » L'Alsacien, en sa qualité de cavalier, avait été saisi par une idée qu'il alla sur le champ mettre à exécution. Il courut chez un loueur de chevaux de sa connaissance, y choisit un cheval, le fit seller et revint en toute hâte chez son maître, où il trouva Madame Ève dans la plus profonde désolation. « Qu'y a-t-il, Kolb ?» demanda l'imprimeur en trouvant à l'Alsacien un air à la fois joyeux et effrayé. « Vous êtes entouré de coquins. Le plaisir est de te gager, mon maître. Motam a-t-elle pensé à mettre mon sieur quelque part ?» Quand l'honnête Kolb eut expliqué la trahison de Cérizet, les circonvallations tracées autour de la maison, la part que le gros Cointet prenait à cette affaire et fait pressentir les Russes que méditeraient de tels hommes contre son maître, les plus fatales lueurs éclairèrent la position de David. « C'est les Cointets qui te poursuivent !» s'écria la pauvre Ève anéantie. « Et voilà pourquoi mes tibiers se montraient si durs. Ils sont pas petits, ils veulent ton secret. Mais que faire pour leur échapper ?» s'écria Madame Chardon. « Si mon dame peut avoir un petit endroit à mettre monsieur ?» demanda Kolb. « Je promets de l'y conduire sans qu'on le sache jamais. »« N'entrez que de nuit chez Basine Clerget, » répondit Ève. « J'irai convenir de tout avec elle. Dans cette circonstance, « Basine est une autre moi-même. »« Les espions te suivront, » dit enfin David qui recouvra quelque présence d'esprit. « Il s'agit de trouver un moyen de prévenir Basine sans qu'aucun de nous y aille. »« Mon dame peut y aller, » dit Kolb. « Voici ma combination. Je vais sortir avec monsieur. Nous emmènerons sur nos traces les siffleurs. Pendant ce temps, madame ira chez mademoiselle Clerchet. Elle ne n'aura pas suffi. J'ai un cheval. Je prends monsieur en groupe. Et dit diable si l'on nous attrape. » « Eh bien, adieu, mon ami !» s'écria la pauvre femme en se jetant dans les bras de son mari. « Aucun de nous n'ira te voir, car nous pourrions te faire prendre. Il faut nous dire adieu pour tout le temps que durera cette prison volontaire. Nous correspondrons par la poste. Basine y jettera tes lettres, et je t'écrirai sous son nom. » À leur sortie, David et Kolb entendirent les sifflements et menèrent les espions jusqu'en bas de la porte-palais où demeuraient les loueurs de chevaux. Là, Kolb prit son maître en croupe en lui recommandant de se bien tenir à lui. « Sifflez, sifflez, mes bons amis, je me moque de vous tous !» s'écria Kolb. « Vous n'attraperez pas un vieux cavalier !» Et le vieux cavalier piqua des deux dans la campagne, avec une rapidité qui devait mettre, et qui mit, les espions dans l'impossibilité de les suivre, ni de savoir où ils allaient. Ève alla chez Postel, sous le prétexte assez ingénieux de le consulter. Après avoir subi les insultes de cette pitié qui ne prodigue que des paroles, elle quitta le ménage Postel et put gagner, sans être vue, la maison de Basine, à qui elle confia ses chagrins en lui demandant secours et protection. Basine, qui pour plus de discrétion avait fait entrer Ève dans sa chambre, ouvrit la porte d'un cabinet contigu dont le jour venait d'un châssis à tabatière et sur lequel aucun œil ne pouvait avoir de vue. Les deux amis débouchèrent une petite cheminée dont le tuyau longeait celui de la cheminée de l'atelier, où les ouvrières entretenaient du feu pour leur fer. Ève et Basine étendirent de mauvaises couvertures sur le carreau pour assourdir le bruit si David en faisait par mégarde. Elles lui mirent un lit de sangle pour dormir, un fourneau pour ses expériences, une table et une chaise pour s'asseoir et pour écrire. Basine promit de lui donner à manger la nuit, et comme personne ne pénétrait jamais dans sa chambre, David pouvait défier tous ses ennemis et même la police. « Enfin !» dit Ève en embrassant son ami. « Il est en sûreté !» Ève retourna chez Postel pour éclaircir quelques doutes qui, dit-elle, la ramenaient chez un si savant juge du tribunal de commerce, et elle se fit reconduire par lui chez elle en écoutant ses doléances. « Si vous m'aviez épousée, en seriez-vous là ?» Ce sentiment était au fond de toutes les phrases du petit pharmacien. Au retour, Postel trouva sa femme jalouse de l'admirable beauté de Madame Séchard et furieuse de la politesse de son mari. Léonie fut apaisée par l'opinion que le pharmacien prétendit avoir de la supériorité des petites femmes rousses sur les grandes femmes brunes qui, selon lui, étaient comme de beaux chevaux, toujours à l'écurie. Il donna sans doute quelques preuves de sincérité, car le lendemain, Madame Postel le mignardait. « Nous pouvons être tranquilles, » dit Ève à sa mère et à Marion, qu'elle trouva, selon l'expression de Marion, encore saisie. « Oh, ils sont partis, » dit Marion, quand Ève regarda machinalement dans sa chambre. « Où faut-il nous diriger ?» demanda Colm quand il fut à une lieue sur la grande route de Paris. « À Marsac, » répondit David. « Puisque tu m'as mis sur ce chemin-là, je vais faire une dernière tentative sur le cœur de mon père. » J'aimerais mieux monter à l'assaut d'une batterie de canons, parce qu'il n'a pas de cœur, monsieur votre père. Le pressier ne croyait pas en son fils. Il le jugeait, comme juge le peuple, d'après les résultats. D'abord, il ne croyait pas avoir dépouillé David. Puis, sans s'arrêter à la différence des temps, il se disait « Je l'ai mis à cheval sur une imprimerie comme je m'y suis trouvé moi-même. Et lui, qui en savait mille fois plus que moi, n'a pas su marcher. » Incapable de comprendre son fils, il le condamnait et se donnait sur cette haute intelligence une sorte de supériorité en se disant « Je lui conserve du pain ». Jamais les moralistes ne parviendront à faire comprendre toute l'influence que les sentiments exercent sur les intérêts. Cette influence est aussi puissante que celle des intérêts sur les sentiments. Toutes les lois de la nature ont un double effet en sens inverse l'un de l'autre. David, lui, comprenait son père. Et il avait la sublime charité de l'excuser. Arrivé à 8 heures à Marsac, Colm et David surprirent le bonhomme vers la fin de son dîner qui se rapprochait forcément de son coucher. « Je te vois par autorité de justice, » dit le père à son fils avec un sourire amer. « Comment, mon maître et vous, pouvez-vous vous rencontrer? Il voyage dans les cieux et vous êtes toujours dans les fignes !» s'écria Colm indigné. « Payez, payez !» Chez votre état de père. Allons, Colm, va t'en mettre le cheval chez Madame Courtois, afin de ne pas en embarrasser mon père, et sache que les pères ont toujours raison. Colm s'en alla, grommelant comme un chien qui, grondé par son maître pour sa prudence, proteste encore en obéissant. David, sans dire ses secrets, offrit alors à son père de lui donner la preuve la plus évidente de sa découverte, en lui proposant un intérêt dans cette affaire pour prix des sommes qui lui devenaient nécessaires. Soit pour se libérer immédiatement, soit pour se livrer à l'exploitation de son secret. « Et comment me prouveras-tu que tu peux faire avec rien du beau papier qui ne coûte rien ?» demanda l'ancien typographe en lançant à son fils un regard aviné, mais fin, curieux, avide. « Vous eussiez dit un éclair sentant un nuage pluvieux. » Car le vieil ours, fidèle à ses traditions, ne se couchait jamais sans être coiffé de nuit. Son bonnet de nuit consistait en 2 bouteilles d'excellent vin vieux que, selon son expression, il sirotait. « Rien de plus simple, » répondit David. « Je n'ai pas de papier sur moi, je suis venu par ici pour faire doublon. Et me voyant sur la route de Marsac, j'ai pensé que je pourrais bien trouver chez vous les facilités que j'aurais chez un usurier. Je n'ai rien sur moi que mes habits. Enfermez-moi dans un local bien clos où personne ne puisse pénétrer, où personne ne puisse me voir et... »« Comment ?» dit le vieillard en jetant à son fils un effroyable regard. « Tu ne me laisseras pas te voir faisant tes opérations ?»« Mon père, » répondit David, « vous m'avez prouvé qu'il n'y avait pas de père dans les affaires. »« Ah, tu te défies de celui qui t'a donné la vie. »« Non, mais de celui qui m'a ôté les moyens de vivre. »« Chacun pour soi, tu as raison, » dit le vieillard. « Eh bien, je te mettrai dans mon cellier. »« J'y entre avec Colm, vous me donnerez un chaudron pour faire ma pâte, » reprit David sans avoir aperçu le coup d'œil que lui lança son père. « J'y entre avec Colm, vous me donnerez un chaudron pour faire ma pâte, » reprit David sans avoir aperçu le coup d'œil que lui lança son père. Puis, vous irez me chercher des tiges d'artichaut, des tiges d'asperges, des orties à dard, des roseaux que vous couperez au bord de votre petite rivière. Demain matin, je sortirai de votre cellier avec du magnifique papier. « Si c'est possible, s'écria l'ours en laissant échapper un hoquet, je te donnerai peut-être. Je verrai si je puis te donner, 25 000 francs, à la condition de m'en faire gagner autant tous les ans. » « Mettez-moi à l'épreuve, j'y consens, » s'écria David. « Kolb, monte à cheval, pousse jusqu'à Mansle. Achète-y un grand tamis de crin chez un boisselier, de la colle chez un épicier, et reviens en toute hâte. » « Tiens, bois, » dit le père en mettant devant son fils une bouteille de vin, du pain et des restes de viande froide. « Prends des forces, je vais t'aller faire des provisions de chiffons verts, car ils sont verts, tes chiffons. J'ai même peur qu'ils ne soient un peu trop verts. » 2 heures après, sur les 11 heures du soir, le vieillard enfermait son fils et Colm dans une petite pièce adossée à son cellier, couverte en tuiles creuses et où se trouvaient les ustensiles nécessaires à brûler les vins de l'Angoumois qui fournissent, comme on sait, toutes les eaux de vie dites de cognac. « Oh, mais je suis là comme dans une fabrique. Voilà du bois et des bassines !» s'écria David. « Eh bien, à demain, » dit le père Séchard. « Je vais vous enfermer et je lâcherai mes 2 chiens. Je suis sûr que vous ne vous apportera pas de papier. Montre-moi des feuilles de main, je te déclare que je serai ton associé. Les affaires seront alors claires et bien menées. » Kolb et David se laissèrent enfermer et passèrent 2 heures environ à briser et à préparer les tiges en se servant de 2 madriers. Le feu brillait, l'eau bouillait. Vers 2 heures du matin, Kolb, moins occupé que David, entendit un soupir tourner comme un hoquet d'ivrogne. Il prit une des 2 chandelles et se mit à regarder partout. Il aperçut alors la figure violacée du père Séchard qui remplissait une petite ouverture carrée, pratiquée au-dessus de la porte par laquelle on communiquait du cellier au brûloir et caché par des futailles vides. Le malicieux vieillard avait introduit son fils et Kolb dans son brûloir par la porte extérieure qui servait à passer les pièces pour les livrer. Cette autre porte intérieure permettait de rouler les poinçons du cellier dans le brûloir sans faire de le tour par la cour. « Ah, papa, ceci n'est pas le jeu! Vous voulez filouter votre fils! Savez-vous ce que vous faites quand vous pouffez à une bouteille de bon vin? Vous approuvez un coquin! » « Oh, mon père, » dit David. « Je venais savoir si vous avez besoin de quelque chose, » dit le vigneron quasi dégrisé. « Et ces 2 barres enterrées, Pirnouk, que vous avez pris à une petite échelle ?» dit Kolb qui ouvrit la porte après en avoir débarrassé l'entrée et qui trouva le vieillard monté sur une échelle courte en chemise. « Risquez votre santé !» s'écria David. « Je crois que je suis somnambule, » dit le vieillard honteux en descendant. « Ton défaut de confiance en ton père m'a fait rêver. Je songeais que tu t'entendais avec le diable pour réaliser l'impossible. »« Le diable, c'est votre passion, Pierre les Bedichonnés !» s'écria Kolb. « Allez-vous recoucher, mon père, » dit David. « Enfermez-nous si vous voulez, mais épargnez-vous la peine de revenir. Kolb va faire sentinelle. » Le lendemain à 4 heures, David sortit du brûloir ayant fait disparaître toutes les traces de son opération et vint apporter à son père 30aine de feuilles de papier dont la finesse, la blancheur, la consistance, la force ne laissaient rien à désirer et qui portaient pour filigrane les marques des fils plus forts les uns que les autres du tamis de crin. Le vieillard prit ses échantillons, il y appliqua la langue en ours habitué, depuis son plus jeune âge, à faire de son palais une éprouvette à papier. Il les mania, les chiffonna, les plia, les soumit à toutes les épreuves que les typographes font subir au papier pour en reconnaître les qualités. Et quoiqu'il n'y eût rien à redire, il ne voulut pas s'avouer vaincu. « Il faut savoir ce que ça deviendra sous presse, » dit-il pour se dispenser de louer son fils. « Troll Tom !» s'écria Kolb. Le vieillard, devenu froid, couvrit sous sa dignité paternelle une résolution jouée. « Je ne veux pas vous tromper, mon père. Ce papier-là me semble encore devoir coûter trop cher, et je veux résoudre le problème du collage en cuve. Il ne me reste plus que cet avantage à conquérir. Ah, tu voudrais m'attraper, mais vous le dirais-je? Je colle bien en cuve, mais jusqu'à présent la colle ne pénètre pas également ma pâte, et dans nos papiers le reste d'une brosse. » « Eh bien, perfectionne ton collage en cuve et tu auras mon argent. »« Mon maître ne fera jamais la couleur de votre argent. » Évidemment, le vieillard voulait faire payer à David la honte qu'il avait bu la nuit. Aussi le traita-t-il plus que froidement. « Mon père, » dit David qui a envoyé à Kolb, Je ne vous ai jamais voulu d'avoir estimé votre imprimerie à un prix exorbitant et de me l'avoir vendue à votre seule estimation. J'ai toujours vu le père en vous. Je me suis dit, laissons un vieillard qui s'est donné bien du mal, qui m'a certainement élevé mieux que je ne devais l'être, jouir en paix et à sa manière du fruit de ses travaux. Je vous ai même abandonné le bien de ma mère, et j'ai pris, sans murmurer, la vie au béret que vous m'aviez faite. Je me suis promis de gagner une belle fortune sans vous importuner. Eh bien, ce secret, je l'ai trouvé, les pieds dans le feu, sans pain chez moi, tourmenté pour des dettes qui ne sont pas les miennes. Oui, j'ai lutté patiemment jusqu'à ce que mes forces soient épuisées. Peut-être me devez-vous des secours, mais ne pensez pas à moi, voyez une femme et un petit enfant. Là, David ne put retenir ses larmes. Et prêtez-leur aide et protection. Serez-vous au-dessous de Marion et de Kolb qui m'ont donné leurs économies ? S'écria le fils en voyant son père froid comme un marbre de presse. Et ça ne t'a pas suffi ? S'écria le vieillard sans éprouver la moindre vergogne. Mais tu dévorerais la France. Bonsoir, moi je suis trop ignorant pour me fourrer dans ces exploitations, il n'y aura que moi d'exploiter. Le singe ne mange pas l'ours, dit-il en faisant allusion à leur surnom d'atelier. Je suis vigneron, je ne suis pas banquier. Et puis vois-tu, les affaires entre père et fils, ça va mal. Dis non, tiens, tu ne diras pas que je ne te donne rien. David était un de ces êtres à cœur profond, qui peuvent y repousser leurs souffrances de manière à en faire un secret pour ceux qui leur sont chers. Aussi, chez eux, quand la douleur déborde ainsi, est-ce leur effort suprême. Ève avait bien compris ce beau caractère d'homme. Mais le père vit, dans ce flot de douleur amené du fond à la surface, la plaine vulgaire des enfants qui veulent attraper leur père. Et il prit l'excessif abattement de son fils pour la honte de la succès. Le père et le fils se quittèrent brouillés. David et Kolb revinrent à minuit environ à Angoulême, où ils entrèrent à pied avec autant de précaution qu'en eussent pris des voleurs pour un vol. Vers 1 heure du matin, David fut introduit sans témoin chez mademoiselle Basine Clerget, dans l'asile impénétrable préparé pour lui par sa femme. En entrant là, David allait y être gardé par la plus ingénieuse de toutes les pitiés, celle d'une grisette. Le lendemain matin, Kolb se vanta d'avoir fait sauter son maître à cheval et de ne l'avoir quitté qu'après l'avoir mis dans une patache qui devait l'emmener aux environs de Limoges. Une assez grande provision de matières premières fut emmagasinée dans la cave de Basine, en sorte que Kolb, Marion, Madame Séchard et sa mère purent n'avoir aucune relation avec Mademoiselle Clerget.